il laissa filer et garda le silence. Il ne crevait pas d'envie de défendre Walters et Arango. Il se remit à penser aux événements de la nuit précédente et arriva enfin à une conclusion positive. Apparemment, il faisait déjà assez de vagues pour avoir suscité une réaction, même si, de fait, il ne savait pas trop ce que celle-ci voulait dire. Ils arrivèrent au Los Angeles Times 10 minutes avant le rendez-vous qu'ils avaient fixé avec l'ancien supérieur de Glory, un certain Clint Neff. 6 à Chatsworth, au nord-ouest de Los Angeles, les bâtiments du journal étaient gigantesques et occupaient tout le coin de Winnetka et Prairie Avenues. Les environs étaient pleins d'immeubles de bureaux dernier cri, d'entrepôts et de propriétés cossues. Le siège du Times semblait entièrement fait de plastique blanc et de verre fumé. Ils s'arrêtèrent devant une guérite et durent attendre que le garde en uniforme ait fini d'appeler pour avoir confirmation de leur rendez-vous et pouvoir leur lever la barrière. Ils se garèrent, McCaleb sortant son bloc-notes pour l'emporter avec lui. Sa sacoche était devenue trop encombrante pour qu'il la trimballe partout. Il s'assura que Graciella fermait bien la voiture à clé avant de partir. Par des portes automatiques, ils entrèrent dans un vestibule à mezzanine en marbre noir et dalles de terracotta. Leurs chaussures claquèrent sur le sol. Froide et austère, la salle aurait, d'après certains critiques, fait honneur à la façon dont la rédaction s'occupait des nouvelles locales. Cheveux blancs, pantalons et chemises du même bleu, un homme en uniforme descendit un couloir pour les accueillir. L'écusson ovale qu'il portait au-dessus de la poche de sa chemise les informa qu'il s'appelait Clint avant même qu'il ait eu le temps de le leur annoncer. Un jeu de protège-tympans, comme en mettent les équipes d'entretien au sol dans les aéroports, pendait à son cou. Graciella fit les présentations. « Mademoiselle Rivers, lui lança Clint, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes vraiment désolés pour votre sœur. C'était une chouette fille, bosseuse et très gentille avec nous. » « Elle l'était, oui, merci. » « Si vous voulez bien me suivre là-bas derrière, nous pourrons nous asseoir une minute et voir ce que je peux faire pour vous. » Il reprit le couloir et marcha devant eux en leur parlant par-dessus son épaule. « Votre sœur vous l'avait sans doute dit, » enchaîna-t-il, « mais c'est ici que nous imprimons tous les numéros de l'édition Valley et la plupart des cahiers spécialisés que nous glissons dans tous nos journaux, le guide télé et le reste. »« Oui, je sais, » lui répondit-elle. « Écoutez, je vois pas trop à quoi ça pourra vous servir, mais j'ai prévenu des gens de son équipe avec lesquels vous pourriez vouloir parler. Ils sont tous d'accord pour vous rencontrer. » Ils arrivèrent au pied d'un escalier et en gravirent les marches. « Annette Stapleton fait toujours partie de l'équipe de nuit ?» lui demanda McCaleb. En fait, non, lui répondit Neff, qui était déjà essoufflé. « Nettie, enfin, elle a eu la trouille après ce qui est arrivé à Gloria, et après un truc pareil, vous savez, c'est pas moi qui le lui reprocherais, ce qui fait que maintenant, elle bosse pendant la journée. » Il leur fit suivre un deuxième couloir qui conduisait à une porte à double battant. « Est-elle là aujourd'hui ?» insista McCaleb. « Et comment vous pouvez lui parler si vous... La seule chose que je vous demande, c'est que vous parliez à tous ces gens pendant leur pause. Comme Nettie, disons. Elle va se reposer au salon à 10h30, et comme nous aurons probablement fini, vous pourrez lui parler à ce moment-là. Pas de problème. » Après quelques instants de silence, Neff se retourna pour regarder McCaleb. « Alors comme ça, vous étiez au FBI, c'est ça ?» « Exact. Ça devait être drôlement intéressant. »« Oui, des fois. »« Comment ça se fait que vous ayez laissé tomber? Vous ne m'avez pas l'air si vieux que ça. »« Faut croire que ça devenait trop intéressant, » lui répondit-il en se retournant vers Graciella et en lui faisant un clin d'œil. Elle sourit. Le bruit des rotatives épargnant à McCaleb d'autres questions plus personnelles. Ils arrivèrent devant la grande porte à double battant. À peine si elle arrivait à empêcher le vacarme de déborder de leur côté. D'un distributeur accroché au mur près de la porte, Neff sortit 2 sachets en plastique contenant des protège-tympans et les leur tendit. « Feriez mieux de vous mettre ça avant de traverser la salle, » dit-il. « Toutes les presses sont en marche. On imprime le cahier livre. 1 200 000 exemplaires, ces machins-là devraient vous couper le son d'environ 30 décibels, mais bon, on arrive quand même à s'entendre réfléchir. » Ils ouvrirent leurs sachets pendant que Neff mettait son casque. Puis il poussa un des battants de la porte et leur fit longer l'alignement de rotatives. L'impact sensoriel était aussi bien tactile qu'auditif. Le plancher vibrait comme si un petit tremblement de terre venait de se déclencher. Les protège-tympans avaient du mal à lutter contre la plainte suraiguë des machines, une manière de battement sourd tenant lieu de basse rythmique. Neff les conduisit jusqu'à une autre porte et les fit entrer dans ce qui était manifestement la salle de repos. Longue table et distributeur de boissons et de sandwichs. Sur les murs, les espaces libres étaient occupés par des panneaux d'affichage en liège couverts d'annonces patronales et syndicales et d'avis relatifs à la sécurité. Le bruit diminua fortement lorsque la porte se referma. Ils traversèrent la salle et franchirent une 3e porte qui donnait dans le petit bureau de Neff. Ce dernier ôta son casque et le remit autour de son cou tandis que Mac Caleb et Graziella se débarrassaient de leur protège-tympan. Vous feriez bien de les garder, dit Neff. Ce sera le même chemin pour ressortir. Ça dépendra du moment, mais il se pourrait que tout tourne encore.